VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Tout d'abord, le triple attentat suicide qui a frappé mardi soir l'aéroport international Atatürk d'Istanbul en Turquie. Le tout dernier bilan officiel de l'attaque, 41 morts dont 13 étrangers et 239 blessés. Dans un appel téléphonique à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, depuis Ottawa au Canada où il se trouve pour un sommet des dirigeants d'Amérique du Nord, le président américain Barack Obama a présenté ses condoléances au peuple turc et offert l'aide des États-Unis dans l'enquête en cours et pour toutes les mesures visant à renforcer la sécurité. C'est l'attaque la plus meurtrière dans la grande métropole turque, déjà frappée par 3 attentats cette année. Ankara attribue le carnage hier soir à Daesh, le groupe État islamique. Plus de détails sur l'attaque avec Jean-Roger Bion.
Selon les autorités, des explosions ont d'abord eu lieu à l'entrée du terminal des vols internationaux vers 22h locales, 19h GMT. 3 assaillants ont mitraillé des passagers ainsi que des policiers en faction. Une fusillade a éclaté, puis les kamikazes se sont fait sauter. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement exhorté la communauté internationale à une lutte commune contre le terrorisme dans un communiqué. Cette attaque qui s'est déroulée pendant le mois du Ramadan montre que le terrorisme frappe sans considération de foi ni de valeur, a dit le président turc.
Quelles sont les réactions dans le monde face à l'attaque?
Le président français François Hollande a condamné fermement un acte abominable tout en appelant à un renforcement de la coopération internationale en matière de lutte anti-terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a condamné l'attaque terroriste et a lui aussi réclamé une coopération internationale accrue.
Le président russe Vladimir Poutine a lui aussi condamné l'attaque et exprimé ses condoléances au peuple turc. Que font les autorités turques à Istanbul pour rassurer la population et promouvoir le retour à la normale? Un début de réponse avec Muriel Domenac, consul de France à Istanbul, au micro de John Lyndon.
Les mesures de sécurité ont été renforcées et l'aéroport a rouvert avec une sécurité renforcée. Les vols atterrissent depuis 5 heures du matin et repartent à partir de ce soir avec une sécurité renforcée, bien sûr, à l'aéroport.
Est-ce que vous avez une idée des auteurs de ces attaques?
Bon, écoutez, les autorités turques ont désigné Daesh et le mode opératoire semble effectivement concourir à cette thèse.
À votre avis, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi Daesh attaquerait Istanbul?
C'est pas la première fois que Daesh attaque Istanbul, c'est déjà la troisième fois. Il y avait eu un attentat le 12 janvier à Sultanahmet, dans le quartier des mosquées. Le 19 mars, dans la grande rue d'Istanbul, Istiklal, Caddesi. Et aujourd'hui, c'est l'aéroport. Donc, vous voyez, c'est assez cohérent. Daesh attaque les étrangers et le tourisme à Istanbul.
Muriel Domenac, consul de France à Istanbul, en Turquie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burundi, plus de 200 personnes ont été arrêtées ce mercredi sur les grandes places de Bujumbura, la capitale, par des policiers à la recherche de mendiants. Parmi les détenus, des femmes, des jeunes et des enfants. Le nombre des mendiants augmente de jour en jour dans la capitale burundaise. Et le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, a annoncé il y a 2 semaines l'intention du gouvernement de chasser les gens sans emploi et de les faire rentrer dans leur province d'origine. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Depuis 8h GMT, soit 10h heure de Bujumbura, des policiers et militaires étaient à la recherche de tout ce qui ressemble à des mendiants sur les grandes artères de Bujumbura. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et conduites dans un local de la mairie de Bujumbura pour être enregistrées. Parmi eux, des jeunes de la rue, de petits enfants que certaines mamans amènent dans la ville pour mendier à leur compte, des handicapés, des personnes âgées. Un des responsables d'une association qui représente les droits de l'enfant, Jacques Chimirimana, il serait judicieux que le bienfaiteur aide ses enfants en sachant où les trouver. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa, affirme que ce travail de faire mendier des enfants mineurs doit impérativement cesser. Les mendiants doivent retourner sur leur colline d'origine pour s'adonner à l'agriculture ou à d'autres métiers. Ce jour, personne ne sait exactement le nombre de jeunes de la rue au Burundi, mais pour des organisations qui aident la jeunesse, ces jeunes se comptent par dizaines de milliers. Freddy Mbonimpa, maire de la ville de Bujumbura, avait déclaré il y a 2 semaines que ces jeunes qui pullulent les rues de la capitale sans emploi seront reconduits sur leurs collines d'origine. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
RDC maintenant. L'opposition congolaise dit non à l'appel du président Joseph Kabila à participer à l'enrôlement. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce une tentative de distraction du peuple congolais et de la communauté internationale quant à la date constitutionnelle de la présidentielle. On écoute Emery Damien Kalouira, président de la CCT.
Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité. Les Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila en vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir jeter à la poubelle.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Et toujours en RDC, le procès de 32 Bantous et Pygmées est en cours à Lubumbashi au Katanga. Les prévenus sont accusés de crimes contre l'humanité et de génocide en rapport avec des affrontements intercommunautaires en 2013 dans cette région du sud-est du pays et du Sango.
Après trois renvois successifs, la cour d'appel de Lubumbashi a siégé hier en audience foraine à la prison Kasapa de Lubumbashi où sont internés les accusés. L'audience qui a duré près de 4 heures a été consacrée à la lecture des actes d'accusation et à la présentation des 4 premières victimes. Le nord du Katanga a été le théâtre depuis 2013 des nombreux affrontements entre Bantous de l'ethnie Luba et Pygmées de l'ethnie Tswa. Ces combats ont entraîné des tueries à répétition, pillages, incendies et déplacements des populations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution pour reconduire et renforcer le mandat de la MINUSMA au Mali. Le texte présenté par la France, qui assure la présidence tournante du Conseil, prévoit l'envoi d'un renfort de 2000 casques bleus et 500 policiers à la mission onusienne en territoire malien. Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité continue à Abidjan. Un ex-chef de milice partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo a accusé Simone Gbagbo hier d'avoir financé son mouvement. Claire Morin-Gibourg.
Le détenu Moïse Harold Metch est arrivé menotté à l'audience à la cour d'assises d'Abidjan. Celui qui se fait appeler commandant Hôtel ou colonel H s'est présenté comme le chef du GPP, le groupement des Patriotes pour la paix, une des nombreuses milices qui sévissaient sous le règne de Laurent Gbagbo. Le GPP avait été créé pour le maintenir au pouvoir, a expliqué le témoin à charge, assurant que l'ex-première dame était leur financière. L'ex-milicien a expliqué hier, pendant près d'une heure, le rôle et les actions de son mouvement. Notre rôle était de réprimer les manifestations de l'opposition pro-Ouattara, a-t-il déclaré, ajoutant que les membres du GPP disposaient d'autorisations de port d'armes qui leur permettaient d'intimider les opposants. Madame Gbagbo, qui avait déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, comparaît depuis le 31 mai, accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Toujours concernant la Côte d'Ivoire, un premier groupe de 35 réfugiés sur les 7000 Ivoiriens ayant cherché asile en Guinée est arrivé hier soir à Abidjan. Selon l'UACR, plus des deux tiers des 300 000 Ivoiriens qui avaient fui leur pays sont maintenant rentrés au bercail. Au Burkina Faso, le général Patrick Bretous, commandant de la force française Barkhane, a été reçu hier par le président Roch Kabore. Pour le général français, la capacité de nuisance des terroristes a été diminuée. Et puis au Bénin, la commission des réformes politiques et institutionnelles a remis hier son rapport au chef de l'État sur la question du mandat unique. La commission a renvoyé la balle au président Patrice Talon. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.